Écho d'ici, écho d'ailleurs. Bruno Faure, Guillaume Munier.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui chaque samedi vous donne les clés pour mieux comprendre l'économie mondiale, pour commenter, pour poser des questions. Vous utilisez nos comptes Twitter et Facebook RFI Écho. L'événement de la semaine, il s'est produit au Salvador, petit pays d'Amérique centrale. Son président Nayib Bukele a jeté un sacré pavé dans la mare.
I will send to Congress a bill that will make Bitcoin a legal tender in El Salvador.
Le Bitcoin, désormais monnaie légale au Salvador. Une idée qui fait son chemin ailleurs, aux Amériques, en Asie, mais aussi en Afrique. Dans certains pays comme le Nigeria, la popularité des crypto-monnaies est extrêmement forte. Nous verrons pourquoi et surtout si une telle révolution à la salvadorienne est possible et même souhaitable. L'économiste Jérôme Matisse est à mes côtés en studio. Bonjour.
Bonjour.
Autre moment fort sur la planète économie. Jeudi prochain, dans le centre de l'Allemagne, l'ouverture du procès pénal du Dieselgate, cet énorme scandale révélé en 2015 dans l'automobile. Des moteurs truqués pour cacher leur pollution, plusieurs dirigeants de Volkswagen sur le banc des accusés, une affaire qui a provoqué une prise de conscience en Europe où l'on n'a plus Dieu que pour le véhicule électrique. Beaucoup de questions à notre invité Carole Mathieu, spécialiste énergie à l'IFRI. Un cap définitif a-t-il été franchi? Quels enjeux industriels, environnementaux, géopolitiques? Que faire des vieux véhicules qui atterrissent encore très souvent en Afrique? Nos reportages au salon de l'automobile à Munich et dans les rues d'Abidjan, toujours trop polluées.
C'est invivable, il faut de la vérité, parce qu'il pollue l'air. Lorsqu'il démarre son véhicule, vous qui êtes derrière, vous prenez tous les pots cassés, parce que vraiment, c'est insoutenable.
Et puis, comme vous le savez, l'une des grandes préoccupations du monde de l'entreprise en ce moment, c'est la cybersécurité. Le Forum international de la cybersécurité se tenait cette semaine à Lille. Parmi les principaux invités, Tariq Krim, entrepreneur français du web, engagé aujourd'hui dans un combat pour la souveraineté numérique face aux GAFAM. Gardons notre destin en main. Il est cette semaine notre grand invité dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Voilà pour le sommaire. Et si le Bitcoin était la révolution monétaire tant attendue en Afrique, une devise sans intermédiaire, à première vue idéale pour ceux qui n'ont pas accès aux services bancaires, qui ne dépend pas d'une politique gouvernementale, une barrière potentiellement contre l'inflation ou l'instabilité politique. C'est ce que disent en tout cas les défenseurs de la reine des crypto-monnaies, sans doute encouragés par le passage à l'acte du Salvador qui légalise le Bitcoin, quelles que soient les réticences des organismes financiers internationaux et d'une partie de sa population. Jérôme Matisse est donc avec nous pour analyser les perspectives en Afrique. Vous êtes professeur en économie et en finance à l'Université Paris-Dauphine. Avant de vous donner la parole, on va aller tout de suite au Nigeria. Le pays le plus peuplé d'Afrique, l'un des plus grands utilisateurs de crypto-monnaies dans le monde, ce qui n'est pas du goût des autorités qui ont tenté de s'y opposer. Lisa Fabian, vous êtes notre correspondante, bonjour. En février, la Banque centrale du Nigeria a demandé aux banques commerciales de fermer les comptes des utilisateurs de crypto-monnaies.
Oui, cette décision a fait beaucoup parler au Nigeria, mais elle n'a pas vraiment découragé les utilisateurs qui se sont tournés massivement vers le système pair à pair pour échapper à la vigilance de la Banque centrale. Les utilisateurs de crypto-monnaies entrent en contact sur WhatsApp ou Telegram. L'échange se fait en partie sur une application spécialisée, en partie par simple virement bancaire. Alors, pour les autorités nigérianes, les crypto-monnaies sont considérées comme une menace car elles faciliteraient le blanchiment d'argent ou l'achat de drogue. Mais pour de très nombreux Nigérians, il s'agit d'abord d'une valeur refuge, alors que la monnaie nationale, le Naira, est en chute libre sur le marché parallèle. Malgré les risques, le marché des crypto-monnaies offre à tous la possibilité d'amasser un peu d'argent dans un pays où l'inflation s'envole et où le taux de chômage atteint les 33%. Enfin, la diaspora nigériane privilégie désormais les monnaies virtuelles pour envoyer des fonds au pays. au grand dam de la Banque centrale qui a enregistré une chute de 21% des transferts de fonds réalisés par les Nigérians de l'étranger au premier trimestre 2021.
Merci Lisa. Jérôme Mathis, pourquoi un tel appétit des Nigérians pour le Bitcoin ? Manque de confiance dans les institutions ? Un remède aux déficiences des systèmes bancaires ?
Oui, un peu des deux. D'abord, d'un point de vue de la politique monétaire au Nigeria, il faut savoir que ça fait maintenant plus de 5 ans que la population du Nigeria subit une inflation à deux chiffres chaque année. Et en plus, la Banque centrale opère à une dévaluation monétaire à chaque crise pétrolière. Donc aujourd'hui, il faut dépenser deux fois plus de Naira pour acquérir des euros ou des dollars qu'en 2006 et trois à quatre fois plus qu'il y a 12 ans, on va dire. Et puis, vous parlez aussi de déficience du système bancaire. Il faut savoir aussi que les banques, parfois, gèlent les transactions qui ont lieu avec l'étranger parce que la Banque centrale, vous savez que le Nigeria, c'est un grand producteur de pétrole. Il subit la crise du pétrole. L'État reçoit moins de dollars. Donc, la Banque centrale du Nigeria a moins de réserves et donc bloque certaines transactions avec l'étranger. Donc, effectivement, la population adopte le Bitcoin comme valeur refuge. On va voir si c'est une bonne ou une mauvaise opération.
Avec le développement de la téléphonie mobile qui favorise aussi ce développement des cryptos ?
Oui, tout à fait. D'abord, le Nigeria, comme beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, a un taux de bancarisation qui est très faible. On estime à moins de 10% les gens qui auraient un compte bancaire. Donc il y a ce paiement qui peut se faire avec la téléphonie mobile où il n'y a pas besoin de montrer, de procurer des papiers administratifs, etc. La population a accès au Bitcoin, mais n'a pas toujours accès à d'autres monnaies. La population aimerait parfois avoir comme valeur refuge le dollar ou l'euro ou d'autres monnaies fortes du continent africain, mais elle n'y a pas accès. Avec un simple téléphone, sans montrer sa carte d'identité ni quoi que ce soit, on peut acheter du Bitcoin. Et c'est une des raisons pour laquelle il y a un engouement en Nigeria. Vous parliez du pays, vous dites c'est le pays le plus peuplé d'Afrique. Effectivement, ils ont dépassé 200 millions d'habitants. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près la moitié de la population qui a moins de 30 ans. Et c'est une population jeune qui a un engouement pour les nouvelles technologies et en particulier pour les crypto-monnaies.
Et cet engouement, il est continental. Olivier Roger du service économie nous a rejoint. L'idée fait son chemin. Les États se méfient des initiatives privées. Certains pays commencent eux-mêmes à réfléchir à se doter de crypto-devises ou de devises électroniques sur le modèle d'ailleurs de ce que préparent les Européens ou les Chinois.
Oui, parce qu'il existe déjà des crypto-monnaies privées en Afrique et les États regardent ça avec beaucoup d'intérêt. Par exemple, au Kenya, vous avez le Saratu. En Afrique du Sud, vous avez le Safcoin, qui est d'ailleurs coté depuis cette semaine sur de grandes plateformes internationales. Ce sont des initiatives privées et cela n'empêche pas les États de réfléchir à leur e-devise, un petit peu comme le font les Chinois, les Européens et même les Américains. Le Nigeria, nous en parlions, est en train de travailler, de même que le Ghana, à l'introduction dans les mois prochains de tests sur leur devise électronique. Il faut préciser qu'une devise électronique, une e-devise, n'est rien moins qu'une version électronique de la monnaie nationale avec exactement la même valeur. Et l'avantage, c'est qu'elle permet des échanges plus fluides et moins onéreux. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'Afrique du Sud vient de rejoindre un groupe de pays comprenant l'Australie, Singapour, la Malaisie, afin de tester sous l'égide de la Banque des règlements internationaux, qui est en fait la banque centrale des banques centrales, une monnaie électronique dans leurs échanges commerciaux internationaux. L'Afrique est donc dans le train de la monnaie électronique, elle pourrait bien surprendre les acteurs mondiaux de ce domaine par son dynamisme et par son appétit pour les nouvelles technologies.
Jérôme Mathis, la question doit brûler les lèvres de beaucoup de nos auditeurs en Afrique de l'Ouest. On connaît le débat passionné sur les questions monétaires, sur le franc CFA, son remplacement par l'éco. Et si la souveraineté monétaire passait par le Bitcoin ?
Oui, alors je vais vous répondre dans un instant, mais avant ça, je voulais juste rapidement rebondir sur ce que vient de dire Olivier. Il parlait de l'Afrique du Sud, et pour que nos auditeurs comprennent bien, effectivement, et votre correspondante parlait des dons envoyés par la diaspora. Il faut savoir qu'il y a des frais de commission qui sont appliqués, et par exemple, quelqu'un, un travailleur qui est en Afrique du Sud et qui désire envoyer de l'argent à sa famille située en Lestouanie, ex-Swaziland, il va payer 18% de frais de commission, alors que les pays sont limitrophes. C'est prohibitif. Et c'est comme ça pour beaucoup de pays en Afrique. Donc, les crypto-monnaies permettent de réduire quasiment à peau de chagrin les frais de commission et notamment des virements internationaux. Maintenant, pour répondre à votre question, vous me parlez d'intégration monétaire, bon, notamment en Afrique de l'Ouest. Ça fait longtemps qu'elle est sur les rails, elle a pris quelques ralentissements, il y a eu des soubresauts. Parfois, certains pays ont un petit peu freiné parce qu'ils disaient qu'ils n'étaient pas prêts, ce que certains observateurs interprètent comme une faiblesse de ce projet. Moi, je pense que c'est plutôt une force, c'est que les pays ne veulent pas se jeter aveuglément à l'eau, et ils veulent être le mieux préparés. On sait que la zone euro avait été critiquée pour une forme de précipitation, au dire de certains. Et donc, c'est un projet qui est important, qui se fera de toute façon. mais et qui pourrait être bien bénéfique au continent pour peu qu'il soit suffisamment bien préparé en amont. Voilà.
Est-ce que dans le cadre du lancement de la ZLECAF, zone commerciale en Afrique, est-ce que
libre-échange, oui.
Voilà, est-ce que c'est dans cette zone de libre-échange, est-ce que les crypto-monnaies peuvent être une solution, en tout cas un apport pour favoriser le commerce dans la région et le commerce international?
Bon, là, à ce stade, c'est difficile à dire. Créer une zone de libre-échange, c'est toujours bénéfique pour les pays membres. C'est la même chose pour la zone euro. D'aujourd'hui, les pays européens commercent beaucoup plus entre eux qu'autrefois, du temps où il y avait différentes monnaies. Donc, la zone de libre-échange va nécessairement stimuler le commerce. Maintenant, est-ce que ça passera par les crypto-monnaies? Bah, c'est dur de sortir sa boule de cristal pour voir ce qui se passera demain. Il est possible que la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest émette sa propre crypto-monnaie. Enfin, on ne sait pas vers où on va avec ça. Mais de toute évidence, les crypto-monnaies sont là. On ne les enlèvera pas. Et demain, il faudra composer avec quoi qu'il en coûte.
On sent bien cette envie d'une monnaie panafricaine, Olivier Roger. Il y a un projet baptisé Afro. C'est son ambition, une crypto-monnaie, mais stable, qui éviterait les fluctuations en forme de montagne russe, comme on en connaît souvent avec le Bitcoin.
Oui, c'est ce que les anglo-saxons appellent un stablecoin. C'est une crypto-monnaie qui se veut être à l'abri des fluctuations dont sont coutumiers ces types d'actifs. Alors, pour parvenir à cette stabilité, ce stablecoin s'arrime à une devise ou à un panier de devises fortes par un mécanisme monétaire de compensation que Jérôme Mathis nous expliquera peut-être. C'est l'ambition des fondateurs de l'Afro, qui est une crypto encore un peu confidentielle. Elle a été créée par plusieurs économistes et hommes d'affaires africains et européens. L'Afro se veut une monnaie panafricaine, vous l'avez dit, comme l'explique David Nataf, qui est l'un de ses fondateurs.
On a l'ambition d'être adopté par les États du continent pour pouvoir constituer une monnaie unique. Ce qui est important de vous préciser, c'est qu'au niveau de la gouvernance, nous sommes évidemment complètement ouverts à une gouvernance partagée. Les cofondateurs de l'Afro ne souhaitent pas se maintenir à la direction ou aux commandes de la monnaie.
Ce projet d'Afro, Jérôme Mathis, professeur à Paris Dauphine, est-ce que ça peut fonctionner?
Alors, il est au stade embryonnaire, comme l'a dit Olivier, et c'est un projet parmi d'autres. Maintenant, vous dire laquelle des crypto-monnaies prendra le dessus sur l'autre, c'est difficile. Si on va 25 ans en arrière, rappelez-vous tous les moteurs de recherche que nous avions. Nous avions Google, Yahoo, AltaVista, AOL aussi. Il y en a un qui a écrasé tous les autres, c'est Google, mais 25 ans en arrière, on n'était pas capable de dire lequel prendrait le pas sur les autres. Alors, est-ce que Afro prendra le pas sur les autres? Je vais être un peu dur, je vais dire probablement pas, c'est mon avis personnel. La raison, c'est qu'il a une ambition qui est forte, qui est justifiée, qui est d'avoir une monnaie stable. Mais pour avoir une monnaie stable, il faut engager, il faut geler des réserves très conséquentes. Et à moins d'être accompagné, c'est pour ça qu'on est dans le monde des nouvelles technologies, on ne sait pas de quoi demain sera fait, il est possible que demain, il soit accompagné par un État, voire par une banque centrale, qui s'associe à ce projet, auquel cas, effectivement, il pourrait y avoir de l'ampleur, mais tant que ça reste des acteurs privés, qui ne sont pas des milliardaires, qui peuvent geler comme ça des centaines de millions d'euros ou de dollars pour constituer des réserves, ça me paraît être un peu trop ambitieux, je dirais.
Est-ce que ces crypto-monnaies peuvent réduire l'économie informelle, que l'on sait extrêmement répandue en Afrique, permettre à des entrepreneurs de se lancer sans se soucier des banques et des systèmes financiers?
Ouais, je pense pas. Parce que ce système d'économie informelle, c'est quoi? C'est que les banques exigent, comme chacun le sait, des garanties. Quand vous n'êtes pas propriétaire de votre logement ou quand vous êtes propriétaire de votre logement mais que le cadastre potentiellement c'est une administration corrompue, les banques font pas confiance, donc elles ne prêtent pas. Elles ne prêtent qu'aux gros acteurs, elles ne prêtent qu'à l'élite africaine en quelque sorte. Donc le jeune entrepreneur qui vit encore chez ses parents et qui désire lever des fonds, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est qu'il va voir ses proches. Il va voir un oncle, un cousin qui pourra financer son activité et par ce fait on rentre dans l'économie informelle. Que cette transaction se fasse en dollars, en RA, en francs CFA ou en crypto-monnaie, ça reste de l'économie informelle puisqu'on court-circuite le secteur traditionnel des banques. Voilà, donc je pense pas que ça changera quoi que ce soit, à moins que l'on mette au point une crypto-monnaie qui a pour vocation uniquement de servir des projets financés par des business angels pour financer des start-up. Mais là, ce sera un projet tout à fait à part. On n'en a pas pour l'instant.
Parmi les réticences, il y a les risques de piratage, le vol de Bitcoin. Il y a eu des exemples récents.
Oui, tout à fait. Alors, on estime... Il est difficile d'avoir des chiffres tout à fait... tous les chiffres que l'on a sur ces crypto-monnaies sont encore sujets à caution, mais on estime qu'il y a déjà plus d'un cinquième des bitcoins qui ont été détournés. Ce qu'il faut bien expliquer aux éditeurs qui nous écoutent, c'est que le bitcoin, effectivement, repose sur une technologie, la blockchain, qui est un protocole ultra sécurisé. Mais il faut pas non plus croire que pour autant, on peut pas se faire dérober ces bitcoins. C'est un peu, pour utiliser une analogie, c'est comme si vous aviez la clé d'un coffre, de votre coffre, qui est situé dans une banque ultra sécurisée. Mais votre clé, vous l'avez chez vous, et chez vous, potentiellement, vous pouvez vous faire cambrioler. Donc c'est exactement ce qui arrive avec le Bitcoin. Il y a tous les jours des gens qui se font visiter leur téléphone portable, leur ordinateur par des pirates qui leur dérobent cette clé, qui leur dérobent les Bitcoins. Donc il faut faire très très attention, et d'autant qu'on n'est pas remboursé. Nous ici, on est en économie protégée. Si on vous fait pirater votre compte bancaire, que ce soit, ou vos, les systèmes de paiement, Visa, Mastercard, PayPal, proposent des assurances. Votre banque va vous rembourser si vous faites pirater. Ce n'est pas le cas en Bitcoin, c'est un drame. Gens mettent toutes leurs économies là-dedans et du jour au lendemain se font détrousser, ils n'ont plus rien.
Donc il faudra des assurances.
Alors ce serait bien qu'il y ait un système d'assurance, oui, effectivement, ce qui renchérira, et on reviendra sur des coûts de transaction pour le coup, ou des coûts de système bancaire qui seront plus élevés. L'avantage des crypto-monnaies, c'est que les coûts sont très faibles, mais notamment pour ces raisons-là, parce qu'il n'y a pas d'assurance, parce qu'on ne vérifie pas l'identité des gens qui font les transactions, comme c'est le cas dans le système bancaire traditionnel.
Donc un écosystème qui se crée autour du Bitcoin. Olivier Roger, il y a même de l'industrie qui se développe avec des projets parfois un peu fous sur le continent africain.
Oui, et le plus étonnant de ces projets, c'est celui qui est mené par un groupe de lobbyistes actuellement, qui se fait appeler Project Mano, et ce groupe essaye de convaincre l'Éthiopie d'utiliser une partie de l'énergie de son futur méga barrage qui est en cours de finalisation, en cours de construction, c'est le barrage de la Grande Renaissance, pour produire ce que l'on appelle, pour miner, des bitcoins. Les lobbyistes ont calculé qu'en utilisant à peine 5% des 6000 mégawatts que devrait produire chaque jour ce barrage, eh bien l'Éthiopie pourrait engranger plusieurs dizaines de millions de dollars par an. Un projet similaire existe déjà en Nouvelle-Zélande.
Fascinant, Jérôme Matisse.
C'est fascinant. J'espère que ce n'est pas l'énergie qui est détournée et qui aurait pu servir à d'autres projets socialement plus rentables. Je n'en sais rien.
On laisse votre question en suspens. Merci à vous, Jérôme Matisse. Je cite votre dernier ouvrage, qui n'a absolument rien à voir avec les crypto-monnaies. Combien vaut une vie, aux éditions Tremplin? Combien vaut une vie? Une question, c'est vrai, en pleine actualité, avec la pandémie qui court toujours sur la planète.
Écho d'ici,
écho d'ailleurs,
Bruno Faure.
Retour en Europe, en l'occurrence en Allemagne, son industrie automobile reconnue dans le monde entier, mais qui se pose énormément de questions depuis quelques années, depuis cette fameuse affaire du Dieselgate et la prise de conscience chez les consommateurs sur fond de préoccupations climatiques. Nos véhicules de demain doivent être moins polluants, moins gourmand en carburant et au passage moins bruyant. Une solution presque magique, je dis bien presque, c'est la voiture électrique. Bonjour Carole Mathieu.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'IFRI, Institut français des relations internationales, spécialiste des questions d'énergie et de climat. Vous vous intéressez beaucoup à cette transition. Est-ce que vous diriez effectivement que la bascule économique est faite? C'est vrai que quand on regarde les publicités pour les voitures à la télévision, en l'occurrence pour moi en France, il n'y en a plus que pour l'électrique ou pour l'hybride.
Oui, exactement. En fait, c'est, disons, maintenant, on en est au stade de la certitude, c'est que l'avenir de l'automobile en Europe, il sera électrique. Et on voit bien qu'on a franchi un tournant l'année dernière, en 2020, avec une part de marché des véhicules, alors à la fois électriques et hybrides rechargeables, qui a pour la première fois dépassé les 10%, et des ventes qui ont spectaculairement augmenté, alors que le marché de l'automobile en général était, lui, vraiment en berne. Et puis, quand on observe les chiffres du début de l'année 2021, on a plutôt confiance dans le fait que la tendance va se poursuivre. Ça s'explique par plusieurs raisons. Vous avez mentionné le Dieselgate, la stratégie des constructeurs eux-mêmes, mais derrière, il y a aussi un gros effet de la législation, et de la législation européenne en particulier, avec des standards d'émissions de CO2 pour les véhicules neufs qui ont été vraiment resserrés pour la fin de l'année 2020. Et donc, pour les constructeurs automobiles européens, ça voulait dire nécessairement booster les ventes de véhicules zéro émission, donc électriques, et donc investir dans cette filière, arriver à étoffer leur offre et proposer davantage de modèles aux consommateurs. Mmh. Donc ça, c'est le premier gros enjeu. Puis après, évidemment, le véhicule électrique a gagné en attractivité parce que les coûts de la batterie ont baissé, que l'électromobilité, c'est au cœur des plans de relance, donc il y a de plus en plus de dispositifs de soutien à la demande.
On va y revenir sur ces questions du soutien et du coût des batteries. Avant d'aller plus loin, Carole Mathieu, prenons la route de Munich, cette grande ville du sud de l'Allemagne où se tenait cette semaine un salon international de la mobilité. Anne Verdaguet du service économie de RFI y a rencontré les principaux acteurs du secteur. Voici son reportage pour Eco d'ici, Eco d'ailleurs.
Courbes élégantes, lignes élancées et aérodynamiques, moteur de plus en plus puissant, la voiture électrique de l'avenir n'a rien à envier à sa concurrente thermique. Et le marketing joue à plein au salon de Munich. Premier arrêt au stand Renault où la nouvelle Mégane 100% électrique attire tous les regards. Bruno Vanel, responsable produit chez Renault.
C'est vraiment un véhicule qui est destiné à redonner le plaisir et l'émotion à nos clients. La partie technique, celle que vous ne voyez pas, qui est sous la carrosserie, qui a été conçue depuis le départ, 100% électrique. En gros, le moteur électrique étant beaucoup plus petit, on l'a poussé vers l'avant. Et donc, ça se traduit par plus d'habitabilité, plus de plaisir de conduite avec une voiture, je dirais, collée au sol, et aussi des proportions que permet cette plateforme 100% électrique en ayant poussé les roues aux quatre coins et des très grandes roues. Ça demande à la fois beaucoup de travail, ça demande de se réinventer, puisque c'est des moteurs électriques, on n'a pas l'habitude, c'est plus compact, c'est plus simple. Des batteries, c'est un savoir-faire spécifique, mais progressivement, le but c'est que ça devienne la voiture de monsieur tout le monde.
Avec la barre des 1 million de véhicules récemment atteinte, l'Allemagne reste le premier marché de l'électrique en Europe, très loin devant la France et le Royaume-Uni. La machine de guerre déployée par le géant bavarois BMW y est sûrement pour quelque chose. Le constructeur qui joue à domicile a dévoilé cette semaine sa première voiture à hydrogène comme une alternative au 100% électrique. Ludovic Guilhem, chef de la communication pour BMW France.
Le fonctionnement à hydrogène est finalement assez similaire à celui d'une voiture électrique. La grosse différence, c'est l'énergie de départ. Puisque l'énergie, au départ, elle est stockée sous forme d'hydrogène dans un réservoir. Cet hydrogène est transformé à bord de la voiture à l'aide d'une pile à combustible qui va délivrer jusqu'à 374 chevaux. Donc c'est le moteur hydrogène le plus puissant qui ait jamais été proposé sur une voiture hydrogène, sans aucune terre rare. BMW Group, vous savez, est très engagé en matière de développement durable et s'est engagé à respecter les accords de Paris. Pour ça, on doit développer un maximum de voitures sans aucune émission de CO2 en phase de roulage.
Des avancées technologiques qui demandent des investissements massifs de la part des constructeurs qui mettront des années à être amortis. Les bonus à l'achat proposés dans plusieurs pays contribuent à convaincre les consommateurs de passer au tout électrique. Mais pour Hildegarde Müller, présidente de l'Association allemande de l'industrie automobile, les politiques doivent aller plus loin.
C'est une énorme transformation pour le secteur, du plus petit sous-traitant au plus grand constructeur mondial. Nous voulons investir 150 millions d'euros dans cette transition jusqu'en 2025. C'est un très lourd investissement dans les nouvelles technologies. Nous avons besoin de l'aide des États, des structures en Allemagne et dans toute l'Europe en matière de taxes, de coûts de l'énergie aussi. Nous avons besoin aussi d'accords commerciaux avec les autres pays à cause du manque de semi-conducteurs. C'est vraiment nécessaire.
Les volumes de vente des voitures électriques devraient se poursuivre jusqu'en 2025 sur le vieux continent, date à laquelle de nouvelles contraintes en matière d'émissions changeront de nouveau la donne pour les constructeurs automobiles.
Reportage d'Anne Verdaguer au Salon international de Munich, Salon de la mobilité. Promesse d'ingénieurs, ok, Carole Mathieu, mais une nécessité de très lourds investissements, on vient de l'entendre.
Oui, c'est vraiment un défi industriel pour le secteur automobile qui avait plutôt assis sa domination sur le moteur thermique. Et en fait, l'Europe est assez mal positionnée par rapport à d'autres régions et d'autres pays, notamment la Chine. Du point de vue industriel, la maîtrise des technologies de batteries, de véhicules électriques en général, est plutôt localisée en Asie, au Japon, en Corée, en Chine. Et l'Europe est plutôt dans une perspective de rattrapage. Donc c'est un défi et aussi une inquiétude parce que le secteur automobile, c'est 14 millions d'emplois directs et indirects en Europe. Donc forcément, la puissance publique s'intéresse à la question et essaye de mobiliser tous les outils pour faciliter la transition.
On a entendu aussi dans le reportage le développement du moteur à hydrogène. C'est ça l'avenir ?
C'est une des options qui est sur la table, mais c'est pas celle qui est privilégiée par les constructeurs automobiles en général. Disons qu'ils sont tous face à un énorme défi de se réinventer, d'investir, et que les ressources sont limitées. Donc finalement, ils ont quand même une tendance à flécher leur choix vers un petit nombre de solutions. Et ce qui ressort, c'est que l'électrique est la solution privilégiée. Et puis ensuite, il y a quand même une question même pour les pouvoirs publics. Parce que pour ces différentes solutions de véhicules, il va falloir déployer des infrastructures de recharge correspondantes. Et on peut considérer que si on construit à la fois un réseau de recharge public pour l'hydrogène, pour les biogaz, les biocarburants et pour l'électrique, bah quelque part, on peut se disperser et que c'est pas une bonne utilisation disons, des finances publiques.
Et on a bien compris que le nerf de la guerre, ce sont les batteries qui représentent 30 à 40% de la valeur des véhicules électriques. Paul Inglès nous a rejoint. Pour l'instant, l'Europe est à la traîne et tente de rattraper son retard.
Ah oui, le chemin sera long. L'Union européenne ne répondait en 2019 qu'à 3% de la demande mondiale en batteries électriques, quand 85% étaient produites en Asie par des groupes japonais, coréens et surtout chinois. Ces chiffres pourraient bientôt changer. L'ONG Transport et Environnement a dénombré pas moins de 38 projets de gigafactories en Europe à horizon 2030. Des projets d'usines de batteries plus ou moins avancés. Alors quelques exemples, Bruno. Au moins 3 projets en cours en France. L'une pour Stellantis et 2 autres sous la houlette de Renault. Tesla travaille depuis déjà quelques années pour ouvrir une grande usine à Berlin. Volkswagen envisage d'avoir 6 gigafactories dans la décennie qui vient. Le constructeur allemand est d'ailleurs monté au capital de la licorne suédoise Northvolt. Là où la France rêvait d'un Airbus des batteries, on assiste plutôt à une multitude de projets. En tout cas, l'enthousiasme est là, une frénésie encouragée par Bruxelles au nom de la souveraineté économique.
Et est-ce que ça peut permettre tout ça de rattraper le retard sur les autres grandes puissances ?
Eh bien, l'Asie a beaucoup d'avance, environ 10 ans, et plusieurs questions restent en suspens. Le spécialiste de l'automobile, Flavien Nevis, s'interroge par exemple sur la compétitivité des batteries européennes. Malgré les aides publiques, le prix des batteries européennes parviendra-t-il à rivaliser ? La compétitivité se fera également sur les performances de la batterie, son autonomie et son temps de recharge. Alors, pour se démarquer de la concurrence, l'Europe investit dans la recherche. Autre défi pour atteindre l'indépendance dont rêve Bruxelles, s'assurer un accès aux matières premières. La Commission européenne anticipe une multiplication par 18 d'ici à 2030 des besoins en lithium. Et puis derrière la production européenne, l'Asie reste en embuscade. Pour l'usine de Douai, Renault a conclu un partenariat avec le chinois Envision. Autre exemple, Cattel, entreprise chinoise, elle aussi, implante une usine en Allemagne.
Carole Mathieu, on vient d'entendre beaucoup de choses dans ce que vient de dire Paul Inglès. Il y a des questions de coûts de fabrication et des questions environnementales, tout simplement. Qu'en est-il de cette fameuse batterie verte dont on nous parle en Europe ?
Oui, c'est vrai que la promesse en basculant vers le véhicule électrique, c'est d'offrir une meilleure performance climatique d'abord et environnementale au sens large. Il y a déjà un débat qu'il faut clore. Le véhicule électrique, c'est une meilleure solution sur le plan environnemental et climatique que le véhicule thermique, hein, quand on regarde l'ensemble du cycle de vie. C'est la solution à privilégier. Mais effectivement, il y a des marges d'amélioration. Et quand on cherche à les situer, on voit qu'elles sont surtout autour de la batterie, donc pour la fabrication et pour son traitement en fin de vie. Donc si l'Europe s'inscrit vraiment dans une perspective de neutralité climatique, alors il faut qu'elle se mette en cohérence avec ses principes et qu'elle cherche à encourager la fabrication et le recyclage de batteries les plus vertes possibles. Alors, elle y travaille. C'est un chantier difficile parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de méthodologie de calcul qui soit acceptée par tous pour comparer, en fait, l'empreinte carbone, l'empreinte matérielle des batteries. Donc, il faut faire ce travail d'accès aux données, de comparaison. Et l'idée, ensuite, c'est d'obliger au moins à la transparence. Donc, tous les fabricants de batteries qui mettront leurs produits sur le marché européen devront déclarer l'empreinte carbone, le contenu en matière recyclée et d'autres indicateurs qui, ensuite, pourront aider le consommateur à aiguiller ses choix vers les solutions les plus vertes. Et l'étape d'après, ce serait de développer des normes, donc peut-être de sortir du marché les batteries les moins performantes, les moins satisfaisantes du point de vue environnemental, pour ne garder que les plus performantes.
Et encore plus à la source, il y a ce problème des matières premières d'approvisionnement qui est apparemment crucial.
Oui, alors sur le fond de la question, en fait, on n'a pas d'inquiétude sur la disponibilité des ressources. Les batteries sont effectivement gourmandes en métaux, en matières premières minérales, mais que l'on parle du lithium, du nickel, du cobalt ou du graphite, les sous-sols contiennent suffisamment de ressources pour satisfaire aux besoins. Donc ça, c'est une première bonne nouvelle, mais la question, c'est est-ce qu'on développe les capacités d'extraction suffisamment rapidement ? Pour développer un nouveau projet minier, il faut quand même au moins 3 voire 5 ans. Donc il faut que les décisions soient prises suffisamment à l'avance et surtout avant l'explosion de la demande. Et c'est un peu l'inquiétude du moment, de savoir si on investit suffisamment Et puis, la deuxième question, c'est qui investit? Parce qu'aujourd'hui, on voit que les plus prompts à s'engager sur le secteur extractif, ce sont plutôt les acteurs chinois, alors que les acteurs européens ont plus d'aversion au risque, parce qu'il y a moins de débouchés garantis, peut-être moins de soutien public. Et donc, ils sont assez absents de la carte des matières premières et du raffinage. Et donc ça, c'est aussi quelque chose à corriger si on veut prétendre à l'autonomie stratégique.
Vous restez avec nous, Carole Mathieu. L'une des conséquences de cette révolution électrique en Europe, c'est qu'il faut se séparer des anciens véhicules trop polluants. On sait bien qu'ils atterrissent souvent en Afrique. Mais pour combien de temps? En Côte d'Ivoire, une loi en 2018 a bouleversé le marché, interdit d'importer des véhicules de plus de 5 ans. Une incitation à acheter des voitures neuves, donc moins polluantes. Reportage dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan, signé François-Hume Ferkataji.
Dans la gare de taxi collectif du quartier de Blokos, les voitures jaunes canaries sont garées à touche-touche le long d'un muret sur un chemin de terre. Ces véhicules, communément appelés woro-woro, sont hors d'âge et dégagent des fumées noirâtres, tandis que leurs amortisseurs semblent inexistants. Mais ils sont essentiels pour des millions d'Abidjanais qui les utilisent tous les jours pour leur transport quotidien. Patrick Niaman est chauffeur d'une Peugeot 306 de 1995.
Les woro-woro qu'on achète en Afrique ici, ça vient de la France, hein. Tout ce qu'on achète ici, on appelle ça France au revoir.
Citroën Picasso, Peugeot 405 ou Renault Scénic, les France au revoir forment la grande majorité de ces taxis collectifs. Mais depuis la loi de 2018 sur l'interdiction de l'importation des véhicules de plus de 5 ans, ces véhicules d'occasion sont plus difficiles à trouver.
On n'en trouve plus.
Et ça, c'est dur pour les chauffeurs de Woro Woro?
C'est très dur pour nous, puisque c'est les voitures occasion, nous on roule. C'est très dur pour nous, ça ne nous arrange pas.
Pourquoi ne viennent plus les voitures? C'est trop polluant, ces vieilles voitures?
Bon, là, polluant là, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. À côté polluant là, je ne sais pas.
Bertin Waiboté travaille dans une station de nettoyage de voitures. Il fait briller les jantes d'un SUV dernier cri. Pour lui, la loi de 2018 est satisfaisante, car les Woro Woro et autres Baka, les minibus de transport collectif, sont trop polluants.
Ça pollue là, ici. Nous voyons, il y a des Woro Woro ici. Et il y a beaucoup de véhicules, vraiment. C'est invivable. Il faut de la vérité. Parce qu'ils polluent l'air. Et quand on leur parle, ce n'est pas leur problème. Hein. Ils s'en foutent. Lorsqu'il démarre son véhicule, vous qui êtes derrière, vous prenez tous les pots cassés parce que vraiment, c'est insoutenable, sincèrement.
Des mesures effectuées récemment à Abidjan sur ces véhicules usagés montrent des facteurs d'émission pour les particules carbonées jusqu'à 100 fois supérieurs aux véhicules les plus récents. Installé au volant de son véhicule, Fernand Quadio, vendeur de voitures d'occasion, explique que les véhicules diesel n'attirent plus ses clients, moins pour des raisons écologiques que pratiques et économiques.
Pour ce qui est des véhicules à moteur diesel, c'est en chute libre en Côte d'Ivoire. C'est dû au fait que le diesel d'ici n'est pas bien raffiné. Du coup, les moteurs diesel prennent un coup. Voilà pourquoi les gens ont opté pour le moteur à essence.
Selon les experts des Nations Unies, l'Afrique pourrait compter 40% de véhicules électriques d'ici 2050. Mais pour le moment, ils sont invisibles dans les rues d'Abidjan. Seuls quelques bus de l'université de Cocody fonctionnent à l'électricité. François-Hume Ferkataji, Abidjan, RFI.
Phénomène mondial en effet, Carole Mathieu. Cette transition pour renouveler le parc automobile vieillissant, c'est la même problématique sur tous les continents. On peut s'attendre à des villes à deux vitesses, comme ça, dans les prochaines années?
Oui, c'est un problème bien identifié. C'est vrai que dans le reportage, on entendait se focaliser sur une piste d'action qui était plutôt du côté des importateurs, donc fixer des limites d'âge, notamment pour les véhicules usagés. Mais on peut aussi s'interroger sur des mesures que pourraient prendre les exportateurs pour s'assurer que les véhicules qui sont destinés, les véhicules usagés qui sont destinés à d'autres régions du monde, répondent à certains critères, à certaines exigences en matière de sécurité et en matière environnementale. Donc à ce stade, il y a très peu de législation, par exemple en Europe, sur ces questions-là, et il n'y a aucune réglementation internationale. Donc c'est probablement un sujet à porter dans les enceintes internationales. Après, il y a effectivement la question de la bascule vers l'électrique, qui, je pense, souligne toute l'importance du réseau électrique, de l'accès à l'électricité, un accès à l'électricité qui soit fiable et abordable pour soutenir cette technologie d'avenir qui finira probablement par s'imposer dans toutes les régions du monde.
Merci à vous, merci Carole Mathieu, chercheur au Centre Énergie de l'IFRI, Institut français des relations internationales. Merci pour vos éclairages sur cette question de la voiture électrique.
Éco d'ici, éco d'ailleurs, Bruno Faure.
Et avant d'entrer dans la discussion avec notre grand invité, un rappel, RFI Éco, ces deux mots à taper sur Facebook ou sur Twitter pour retrouver nos reportages, nos émissions, les commenter, poser des questions, par exemple sur l'élevage, les défis de l'élevage. Ce sera l'un des thèmes du prochain numéro d'Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Que vous soyez éleveur ou consommateur de viande, qu'attendez-vous de ces prochaines années ? RFI Éco. Et vous pourrez aussi commenter les propos de notre grand invité. Bonjour Tariq Krim.
Bonjour.
Je vous présente brièvement, entrepreneur français d'origine algérienne. Vous avez 49 ans. Votre domaine, c'est l'informatique, les réseaux, l'innovation dans le domaine du numérique. Vous avez créé plusieurs sociétés, NetVibes, Jolly Cloud, Polite, avec pas mal de succès. Vous avez vice-présidé le Conseil national du numérique en France. Vous portez plusieurs combats dont vous allez nous parler. Mais d'abord, Tariq Krim, racontez-nous votre enfance. Vous avez eu une passion très précoce pour l'informatique.
Oui, absolument. J'ai eu la chance de découvrir le monde des réseaux avant l'Internet, donc dans les années 80 et le début des années 90, qui m'a permis en fait de prendre conscience que c'était ça l'avenir.
Ça, vous aviez 10 ans à peu près, c'est ça ?
À peu près, oui. Et je me suis aussi dit, c'est ça que j'ai envie de faire plus tard. Et donc, dès le départ, j'ai attrapé ce virus et puis j'ai eu la chance de voir évoluer les tout débuts de l'Internet commercial dans la Silicon Valley, mais aussi en France. Le Web 2.0, donc cette réinvention de l'Internet juste après la période où, avec une société, à savoir Microsoft, avait enfermé le Web avec son logiciel, il n'avait plus qu'un seul navigateur, l'arrivée de Firefox, puis après de Chrome, va entièrement changer le jeu à nouveau. Et puis aujourd'hui, ce monde bizarre dans lequel quelques sociétés, qu'on appelle souvent soit les big tech, soit les GAFAM, contrôlent l'ensemble des données de la planète et des utilisateurs.
On va partir sur votre combat du moment, sur la souveraineté numérique et notamment sur la stratégie cloud du gouvernement français. Dites-nous.
Alors, en fait, la question de la souveraineté est une question qui s'était pas vraiment posée à moi dans la mesure où très tôt, dans les débuts de l'Internet, on pouvait en tant qu'individu maîtriser l'ensemble des technologies. Donc, on pouvait construire un Internet sur mesure. Alors, ça s'appelait pas forcément l'Internet à l'époque, on parlait de BBS. Et au fur et à mesure, un ensemble de pans entiers de l'Internet ont été, en fait, d'une certaine manière privatisés ou en tout cas contrôlés par des entreprises dominantes. Il y a eu le moteur de recherche avec Google. Avant Google, il y avait des dizaines de boîtes et puis ensuite, il n'y a plus rien eu, plus de compétition. Ensuite, ça a été les emails. Et ce qui est intéressant, c'est que vers 2007-2008, il y a deux choses qui arrivent en fait en parallèle. La première, c'est cette idée du cloud, qu'en fait nos données vont quitter nos ordinateurs pour être installés de manière permanente sur le réseau.
Donc, et cloud, nuage.
Nuage,
en
voilà.
En français, c'est l'idée que les données, effectivement, sont hébergées ailleurs que là où elles sont utilisées.
On dit souvent le cloud, c'est en fait l'ordinateur de quelqu'un d'autre qui héberge vos données. Dans ce cadre-là, ce sont les données chez Google, chez Facebook et l'ensemble des grands acteurs qui les stockent pour nous et qui nous les restitue via un nouvel appareil qui arrive en 2007-2008, qui sont les smartphones, donc évidemment l'iPhone, et ensuite les terminaux Android. Et à partir de là, moi qui a toujours été un entrepreneur qui aimait bien travailler sur la question des interfaces, je crois que la relation entre l'utilisateur et la machine est essentielle, et définit en fait le type de société dans lequel vous vivez. Si vous avez, ce qui est malheureusement le cas aujourd'hui avec certains réseaux sociaux, uniquement une façon de vous apporter l'information qui est biaisée, votre vision du monde est biaisée. Et surtout, ce que j'appelle parfois la grande dépossession, c'est que soudain, tout ce qui était notre vie numérique, c'est nos fichiers musicaux, nos documents, tout ça est en fait allé dans le cloud. Et aujourd'hui, on n'a pas forcément l'accès complet à ces informations.
Et c'est pour ça donc que vous avez écrit ce livre avec un sous-titre « Requiem pour une souveraineté numérique ».
Oui, effectivement. Alors, j'ai hésité. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le 17 mai 2021, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a présenté la nouvelle stratégie cloud du gouvernement. Et cette stratégie, en fait, laisse entrer au cœur de l'État des acteurs comme Google et notamment Microsoft et probablement d'autres plus tard. Et je me suis posé la question, comment est-ce possible, en fait, dans un pays où nous avons toutes les compétences, toutes les ressources, de ne pas être capable de développer nous-mêmes nos services à notre image, avec notre vision, notre façon de les faire, notre éthique. Et donc, j'ai décidé de prendre un peu de temps et d'écrire un petit e-book qui est d'ailleurs disponible gratuitement sur le site codeforfrance.fr et d'expliquer pourquoi, à mon avis, c'est une erreur.
Et alors, pourquoi est-ce que c'est une erreur alors que beaucoup de gens disent que les sociétés américaines sont tout simplement meilleures que leurs concurrents européens, plus efficaces pour héberger nos données?
Alors, personnellement, je pense que nous avons l'ensemble des compétences, mais je crois aussi qu'on souffre d'un véritable problème, c'est le management des talents. Les personnes qui sont susceptibles de construire ces services ne sont pas en position de les faire. Aujourd'hui, quand on dit « nous allons laisser d'autres entreprises faire les choses que nous devrions faire », ça veut dire qu'on considère que parce que la tâche est difficile, nous allons l'outsourcer, la donner à d'autres gens, alors qu'en fait, il faut réfléchir à construire des services qui soient l'équivalent des services de ce qu'on appelle l'État-providence en Europe, qui est que la relation citoyenne n'est pas forcément la même qu'aux États-Unis, où vous le savez, la sécurité sociale, enfin, il y a plein de services qui ne sont pas aussi développés. Et donc, le numérique devrait être une transition vers un modèle de société différent, et on ne devrait pas copier le modèle de société d'un autre continent.
Tariq Krim, en quoi c'est un problème pour le citoyen, comme vous et moi? En quoi c'est un problème que Microsoft ou Amazon gèrent nos données personnelles? Qu'est-ce que ça change dans ma vie?
Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que déjà, on rentre dans un modèle économique différent. Donc, on l'a vu pendant cette période pandémique. Désormais, on est un peu souvent un QR code. Et dans le monde de cette économie numérique des grandes plateformes, tout est économie. C'est-à-dire que l'argument pour construire ou ne pas construire un service, pour offrir ou ne pas offrir une possibilité, est économique. On est dans un modèle de la surveillance des comportements des gens, de façon à les mettre dans des cases et ensuite à leur proposer des choses très spécifiques. Or, quand on est dans la logique de service public, et là je parle évidemment dans le cadre de la souveraineté numérique des services de l'État, notamment des services critiques, santé, défense et autres, il y a une règle essentielle. Tout citoyen est égal en droit, c'est-à-dire que la manière dont l'État doit traiter les citoyens doit être la même. Et c'est l'un des problèmes avec ces modèles basés exclusivement sur le machine learning, donc ce qu'on appelle l'intelligence artificielle en général, c'est que nous ne traitons pas chaque personne de la même manière. Nous offrons un service différent et ce service peut être biaisé.
Donc c'est une vision de l'économie et une vision de la société, finalement, que vous dénoncez. Vous avez pris l'exemple de la santé. C'est pas un progrès, tout de même, qu'on partage nos données médicales avec des groupes qui soient capables de les analyser pour mieux faire, et notamment là, en période de pandémie?
D'une certaine manière, oui, la technologie va nous aider. Elle nous aide. Regardez déjà le vaccin ARN messager. C'est une prouesse technologique. C'est essentiellement de l'informatique, en fait. Mais de l'autre côté, vous vous rendez compte que dans le monde avant, donc d'avant la pandémie, si vous aviez, comment dire, de l'hypertension, du diabète, bon, vous avez de l'hypertension, du diabète. Aujourd'hui, dans un monde Covid, post-Covid, c'est un facteur de comorbidité. Ça veut donc dire qu'une compagnie d'assurance, que tel acteur va pouvoir vous percevoir différemment. Alors que dans le monde d'avant, c'est un monde où on avait quand même limité l'ensemble des éléments, ou en tout cas on les avait limités à, par exemple, un médecin, vous faites un examen de santé, donc vous avez un professionnel de santé qui est garant, donc déjà le serment d'Hippocrate, mais aussi les données personnelles sont privées, à un modèle qui va devenir un modèle statistique où on va vous mettre, sans le savoir, dans telle ou telle case de risque. Et donc pose derrière la question de la technologie la question du contrôle. Qui contrôle la technologie et qui contrôle les gens qui contrôlent la technologie? Et là, malheureusement, tant qu'on n'a pas répondu clairement à cette question, à mon avis, il y a un vrai sujet.
Dans ce contexte-là, dans ce contexte général, il y a une problématique qu'on n'a pas encore abordée et qui est vraiment d'actualité, la cybersécurité, qui était au cœur du forum international cette semaine à Lille et dans lequel vous étiez invité, Tariq Krim. Est-ce que l'Europe aujourd'hui est bien protégée? Est-ce qu'elle surestime la menace ou non?
Je crois que la question de la cybersécurité, qui n'est pas nouvelle, qui existait dans les années 80, 90, aujourd'hui est devenue une question géopolitique. La question qui est posée par les États-Unis, notamment après les attaques de la Russie, de la Chine, pendant les élections indirectes ou directes, a rabattu les cartes. La question aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que nous rejoignons un environnement numérique, une sorte d'OTAN numérique, c'est ce que les États-Unis souhaitent faire, ce que l'administration Biden souhaite faire, dans lequel nous perdons une grosse partie de notre souveraineté face à la Chine et face à la Russie, ou est-ce que nous construisons notre propre environnement autonome, ce qui demande des investissements, mais ce qui demandait aussi des investissements quand vous construisez des armées, puisque aujourd'hui la guerre a changé, on a à la fois la cyberguerre et ce qu'on appelle maintenant le like war, une forme de guerre, c'est-à-dire la guerre psychologique, la guerre des fausses informations, qui est aussi, qui fait, on l'a vu hein, avec le Brexit ou les élections américaines, fait autant de ravages qu'une véritable guerre cyber. Et donc, on va se poser la question des ressources. Et une des choses qui est essentielle, c'est que si vous n'êtes pas souverain sur vos architectures et vos infrastructures numériques, de toute façon, vous serez une cible beaucoup plus facile pour les attaques cyber.
Donc réfléchir à long terme en investissant dès aujourd'hui. C'est absolument aussi une problématique économique.
C'est une problématique économique, mais c'est aussi une question de priorité. Soit on continue à utiliser les logiciels qui sont faits par des tiers, que nous ne maîtrisons pas, en leur donnant accès à des marchés très rentables, soit nous décidons d'investir massivement, ça ne veut pas dire uniquement dans les entreprises, mais dans les universités, dans le savoir-faire, parce que tout existe. Hein. Nous avons d'excellentes écoles d'ingénieurs, d'excellentes écoles de recherche en mathématiques, dans plein de domaines, dans le quantique. Comment faire pour que ces acteurs soient, en fait, fassent partie d'une vision globale et soient entraînés dans une vision globale qui, aujourd'hui, à mon avis, n'est pas très lisible.
Il y a des places à prendre, y compris pour des jeunes entrepreneurs ou des jeunes développeurs, par exemple venus d'Afrique.
Absolument. Je crois que ce qui est fascinant, en fait, c'est qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle ère, ce qu'on appelle l'Internet post-mobile. C'est-à-dire que finalement, l'iPhone a existé, c'est devenu un produit de consommation courante. Les applications n'ont plus vraiment de valeur. On se rend compte aujourd'hui qu'en général, ce sont les gros qui parlent aux gros, hein, les Spotify, Epic, la société de jeux vidéo qui a attaqué Apple récemment pour des questions de monétisation. Et il y a plein de choses. Il y a l'univers de la crypto qui s'ouvre à nous, mais il y a aussi cette idée de construire un Internet post-mobile. Et là, je pense qu'il y a évidemment toujours des choses à faire, des opportunités. Je crois au contraire que les opportunités vont grandir puisqu'on a épuisé les modèles existants. Et donc, de nouvelles idées doivent venir forcément pour changer la façon de voir les choses.
Gardons notre destin en main, c'est ça que je retiens, Tariq Krim. Si vous aviez à donner un conseil à un jeune entrepreneur, là aujourd'hui, qui a... 10 ou 15 ans ou 20 ans comme vous au tout début de l'informatique.
Moi j'ai eu la chance de démarrer à un moment où c'était la guerre froide, mais après la guerre froide, quand l'internet a vraiment démarré, on était dans une période incroyable où le monde était, on disait quasiment la terre était plate, hein, c'était le fameux titre du livre de Tom Friedman, où on pouvait faire la même chose et l'étendre dans le monde entier, il n'y avait pas de frontières. Aujourd'hui, ce qui se passe, on le voit, il y a une nouvelle géopolitique qui est en train de se mettre en œuvre, que ce soit par exemple avec la réglementation sur les données en Europe est en train de changer, en Chine, en Afrique, aux États-Unis, puisque également au Japon. Donc en fait, il va falloir travailler dans un monde qui sera multiculturel, avec des gouvernances différentes. Et donc, une fois qu'on a compris ça, réfléchir aux services dont les gens ont besoin, vont avoir besoin dans un monde où ils ont à la fois besoin d'être rassurés sur leur capacité d'avoir une vie en ligne qui soit agréable et en même temps de leur donner tous ces nouveaux super pouvoirs que la technologie leur apportera, puisqu'il y a plein d'autres choses qui arrivent. Et moi, je dirais simplement de voir le monde tel qu'il est et de profiter de ça. Mais je pense que ce sont les gens qui ont 15 ans aujourd'hui qui seront capables d'inventer le monde dans lequel ils ont envie de vivre dans 15-20 ans.
Merci Tariq Krim.
Merci beaucoup.
Et cet entretien, vous le retrouvez en version enrichie sur RFI.fr, à la page Écho d'ici, Écho d'ailleurs, sur nos comptes Facebook et Twitter, avec le lien vers le livre de Tariq Krim, Requiem pour une souveraineté numérique. Merci à tous de nous avoir accompagnés. Merci à Guillaume Munier. L'émission du service économie de RFI revient samedi prochain. Portez-vous bien.
Géopolitique, le débat.